dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marin Montagu, auteur, illustrateur, scénographe. Tout son travail se concentre souvent autour d'un point commun, Paris. Marin n'a pas son pareil pour dégoter les petites adresses chargées d'histoires, inédites, authentiques, de la capitale, qu'il partage ensuite dans ses guides, comme son tout nouveau livre, Le Paris merveilleux de Marin Montagu, dans son émission Maps, ou qu'il l'inspire tout simplement pour ses créations. Que ce soit au Bon Marché, dans sa boutique Rue Madame, pour les collabs qu'il a pu faire avec Pierre Frey, Alix Derenis ou Diptyque, son univers très riche est toujours une parenthèse enchantée dans laquelle il nous emmène ce matin. Bonjour Marin.
Bonjour Hortense.
Difficile de résumer ton profil et ton parcours en quelques mots, j'ai essayé là dans l'intro. Toi, comment tu te présentes par exemple quand tu arrives à un dîner que tu ne connais pas tout le monde? Qu'est-ce que tu dis?
C'est la grande question, c'est toujours le casse-tête. Déjà, il faut du temps. Non, moi je dis illustrateur, artiste, illustrateur, créateur, designer, voilà, plein de métiers en heure.
Ouais, c'est vrai. Et en termes de personnalité aussi, si toi tu devais résumer, on va largement en parler après par rapport à toutes tes casquettes, mais en termes de personnalité, si tu devais résumer la tienne en trois adjectifs, c'est pas facile.
Trois adjectifs, écoute, déjà curieux, parce que la curiosité me pousse à m'intéresser à plein de choses et donc à créer. Curieux, aventureux. Parce que j'aime voyager et aller m'inspirer de d'autres cultures et aller chiner des objets. Amoureux aussi, parce que amoureux de Paris, amoureux de ce qui m'entoure. Et voilà,
et crois,
j'en
trois.
Ai dit trois.
Ouais.
Mais écoute, en formidable. En eux, toujours en eux.
Alors, quel est ton parcours, si tu veux te présenter, nous résumer, jusqu'à tes premiers guides?
Alors, jusqu'à mes premiers guides, je crois que les premiers guides, je les ai créés vers 25-26 ans. Écoute, moi, j'aimais pas l'école.
Alors, t'es 15-25, ouais.
Ah, ouais, alors j'ai toujours détesté l'école. J'étais pas très mauvais élève parce que je voulais pas perdre de temps, en fait. Je savais que j'aimais pas l'école, donc je voulais passer les classes comme ça sans redoubler. Du coup, j'avais toujours une moyenne qui faisait 10-11 jusqu'au bac à art plastique. J'avais hâte d'en finir avec l'école. Du coup, j'ai pas fait de grandes études, ça c'est certain. Et si tu veux, j'avais vraiment hâte d'être dans la vie active et d'apprendre en fait de ce qui m'entourait. Et donc, à 18 ans, je suis parti à Londres. Je suis allé faire la Saint Martin School, une petite partie de la Saint Martin School. Et là, moi qui avais j'avais un peu la rage contre la pédagogie française qui, je trouvais, nous enfermait un peu dans des carcans comme ça. Et donc, je me suis retrouvé à Londres où finalement, on nous donnait un sujet, si tu veux, et on pouvait créer autour de ça et s'exprimer comme on le voulait, en fait. Et j'avais vraiment besoin de cette liberté-là. Donc, je suis resté 2 ans là-bas et je suis arrivé à... Donc, ça m'a permis de laisser libre à mon imagination à créer. Et je suis arrivé à Paris à 20 ans. J'ai fait un peu d'histoire de l'art comme ça le soir et en cours du soir. Et je me suis vraiment inspiré de Paris. Et déjà, je suis arrivé à Paris, ça a été coup de foudre immédiat, grand amour, passion. Et je me suis inspiré de la ville. Je me suis vraiment inspiré de cette ville en poussant les portes. Je connaissais personne en arrivant ici. Et c'est vrai, quand on arrive de Londres, tout de suite, ça semble un village, Paris, parce que par rapport à la taille. Et du coup, je poussais les portes, si tu veux, pour rencontrer les artisans, les commerçants. Et c'est là où je me suis rendu compte que... Bah, que j'aimais découvrir une ville à travers, en découvrant son âme. Et pour moi, l'âme d'une ville, c'est les personnes qui sont derrière les échoppes, derrière les ateliers et tout ça. Et du coup, vraiment, un peu naïf comme ça, j'allais parler aux gens et j'allais rencontrer ces gens, je m'intéressais à leur métier. Et après, j'ai assisté Christian Sapé au Puce de Saint-Ouen, qui est un décorateur, pendant un an, qui m'a beaucoup appris. Et ensuite, j'ai travaillé sur des décors de cinéma en tant qu'assistant sur des films d'époque. Puis après, je suis passé un peu par la vidéo aussi. J'ai rencontré Inès de la Fressange, avec qui j'ai travaillé. Et arrivé à 26-27 ans, je me suis dit, tiens, j'ai envie de retourner à mes aquarelles, j'ai envie de retourner à du papier, à de la matière. Et finalement, ces voyages que j'ai faits, mon rêve, c'était de créer mes propres guides, d'avoir une sorte de carte au trésor. Et c'est là où j'ai pensé à créer Bonjour Paris. Et du coup, j'ai dépensé toutes mes économies que j'avais sur mon compte pour imprimer et vraiment créer cette collection. Mes amis m'ont dit « Marin, t'es taré, t'es fou. Tu vas avoir ces guides sous ton lit jusqu'à la fin de tes jours. Ça marche pas comme ça, on fait pas comme ça. Tu peux pas créer des guides et les vendre et tout ça. » Et du coup, j'ai vraiment imprimé. J'ai trouvé un imprimeur alors que je connaissais pas ce métier. Et j'ai répertorié en fait mes adresses un peu secrètes à Paris. Sur ma Vespa, je suis allé faire toc-toc chez Merci à l'époque, chez Colette, et ils ont tous joué le jeu et ça leur a plu parce que ça n'existait pas, ces cartes au trésor de la sorte. Et voilà, et puis après, ça a fonctionné, on en a parlé, et on m'a dit, mais à quand, bonjour New York, bonjour Londres, tout ça, j'ai fait, mais c'était pas vraiment prévu, et vu que j'avais un peu plus de temps à l'époque qu'aujourd'hui, je suis parti à New York parce que j'adore New York, et j'ai passé pareil un mois là-bas, et j'ai poussé les portes et tout ça, et donc c'est comme ça que ça a commencé.
Mais comment tu trouves ces adresses qui sont un peu secrètes? Tu les repères, tu les déniches, comme tu dis, très spontanément?
Oui, alors très spontanément, en poussant les portes, plus c'est perdu comme ça, dans une petite rue, dans un petit passage, pousser la porte des porches, arriver dans des petits jardins comme ça, cachés, les ateliers. Quand je cherche un artisan aussi, ça m'amène à faire de belles rencontres. Et quand je suis à New York, c'est marcher dans les rues, pousser les portes, parler aux gens, leur expliquer mon projet, qui me disent « Ah ben tiens, va voir mon ami qui est là-bas » et tout ça. Et voilà.
Et tu es très aussi attiré par le côté échoppe et atelier d'antan, qui est un peu le sous-titre de ton nouveau livre « Le Paris merveilleux » de Marin Montagu, donc qui est très visuel dans un esprit moodboard. Tu nous plonges dans 19 adresses comme ça. D'où ça te vient, cette passion, pour le patrimoine, je dirais, pour les savoir-faire ancestraux?
D'où ça me vient? Alors moi, j'ai des parents qui sont antiquaires. J'ai une grand-mère artiste peintre et qui était aussi antiquaire. Du coup, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis tombé dans cette marmite-là. Et je pense que ces métiers des objets, ces métiers qui ont une âme, ces métiers qui prennent du temps, ces métiers où on respecte les matériaux. Ouais, c'est ça en fait, le respect, parce que chez moi, quand j'étais petit, oui, il y avait des commodes, mais c'était des commodes anciennes. Du coup, on m'expliquait la matière, le bois, comment c'était fait, la restauration et tout ça. Donc du coup, je pense que très jeune, j'ai été face à ce respect-là. Quand je suis arrivé à Paris, oui, j'ai voulu rencontrer ces gens. Et c'est aussi quand je rentre dans ces lieux, déjà, il y a une odeur. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a quelque chose qui plane dans ces ateliers, avec tous ces outils accrochés au mur, ces meubles qui ont vécu avec une patine. Moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse parce que ça traverse le temps. Ça me bouleverse d'autant plus qu'aujourd'hui, oui, les machines prennent le dessus, mais que ces gens sont encore là. Et voilà, je trouve ça très émouvant.
Oui, c'est une manière de faire perdurer aussi.
Oui, de faire perdurer et de comprendre, en fait, de comprendre que, ouais, un objet, ça se fait avec les mains. Et les mains, c'est important. Enfin, le temps passé. Et de savoir de A jusqu'à Z, toutes les étapes, en fait.
T'as un amour fou pour Paris, tu disais. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette ville?
Parce que c'est une carte postale vivante, quoi. C'est, pour moi, c'est vraiment... J'ai... Alors, je pense que je suis autant amoureux de cette ville parce que je ne suis pas parisien, peut-être. Et du coup, je l'apprécie différemment.
T'as grandi où ? Je ne sais plus si on l'a
Toulouse.
Dit. Ah oui.
Dans le sud, qui est très jolie, qui est une belle ville aussi. Mais c'est vrai que je suis arrivé à Paris et en fait, tout était très cliché comme ça pour moi. Les ponts qui traversent cette Seine, les plaques de rue, les petits cafés, cette architecture avec cette unité comme ça, haussmannienne, ces jardins. Du coup, si tu veux, j'ai vraiment l'impression... Et encore aujourd'hui, quand je traverse les ponts sur ma Vespa et tout ça, c'est très cliché, c'est très... J'ai l'impression très souvent d'être un Américain à Paris ou d'être un Japonais, tu sais. Des fois, je me dis, oh, non, mais un Japonais qui arrive quand même ici, je les comprends parce que vraiment, on peut s'extasier de tout. Et je suis content parce que même après bientôt 20 ans ici, je continue à m'extasier. Et c'est pour ça que je crée mes objets aussi en pensant à Paris et à travers cette extase et cette passion. Parce que c'est pour rendre hommage à cette ville et comme dans mon nouveau livre Le Paris merveilleux, c'est rendre hommage à Paris quoi.
Tu parlais de clichés, le Parisien en lui-même peut être un cliché, non ?
Bah oui, mais c'est trop drôle, on adore.
Comment tu définis le Parisien pour toi ? Écoute, quel regard tu as sur le Parisien ?
Le Parisien, c'est marrant parce que en venant ici, tu vois, je voyais, donc j'étais sur ma Vespa, sur mon scooter. Et en fait, Paris, c'est autant croiser une collégienne en skate qui est trop cool comme ça et croiser un mec en smoking ultra chic sur son vélo et en même temps voir une dame d'un certain âge tellement élégante et qui s'est maquillée et ultra bien habillée, si tu veux, et qui va faire son marché. Et en même temps, la Parisienne avec son trench et ses Converse et son jean... qui est au café avec sa copine en train de fumer une clope, tu vois. Et ouais, il y a un espèce de... En même temps, de prendre le temps et en même temps, de pas te prendre le temps parce qu'on est pressé. Et
là, on est dans un quartier qui s'y prête aussi au personnage que tu viens de nous décrire un peu.
Oui.
On est dans le 6e qui est vraiment... C'est là que tu as installé ta boutique. Ça a été difficile de choisir justement de s'installer dans tel ou tel quartier ?
Bah écoute, Saint-Germain-des-Prés, quand je te parle de carte postale, ça en fait partie. Et moi, j'ai une passion depuis toujours, c'est le jardin du Luxembourg. J'aime énormément ce jardin. Et du coup, mon rêve, c'était d'être à côté du jardin du Luxembourg. Donc quand j'ai trouvé ici rue Madame aussi, c'est toujours un nom qui m'a fait rêver. Et ici, donc le 48 rue Madame, c'était un ancien tapissier. Et c'est assez drôle parce que quand je passais devant... ce tapissier pendant longtemps. Et quand j'ai su qu'il vendait la boutique, je me suis dit, tiens, c'est une sorte de boucle qui est bouclée parce que moi qui suis passionné par ces métiers d'artisanat, voilà, là où on est aujourd'hui, assis, toi et moi, c'était l'atelier du tapissier. Donc j'aime... être entre ces murs qui ont ce vécu-là, quoi.
Oui, j'imagine. Quel est ton c'est pas évident, mais est-ce que tu as un quartier préféré à Paris ?
Quartier préféré ? Écoute, c'est très drôle parce que j'ai toujours habité Rive-Droite. Et là, je suis dans le coin de Bastille, Féderbe, donc qui est vraiment le cœur de l'artisanat, où tu as encore plein d'ateliers, et à l'époque, encore plus. Et en même temps... J'adore prendre mon scooter, traverser le pont de Paris et arriver à Saint-Germain-des-Prés. Du coup, travailler à Saint-Germain et vivre Rive-Droite, ça me convient parfaitement. Et en même temps, Ménilmontant, le Paris de Ménilmontant, j'adore. Voilà, et je ne peux pas te dire un quartier préféré.
Je m'en doutais un peu. Alors si je reviens sur tes différentes collabs que tu as pu faire, et ça m'amuse beaucoup parce que la plupart sont passées dans le podcast, Alice Dérénis, Diptyque, Antoinette Poisson, Pierre Frey, petit clin d'œil aussi à Nomi Biss avec qui tu partages un espace au bon marché. Tu as eu ensuite, après ces collabs, envie d'avoir en fait ta propre marque, tes propres collections, ta propre boutique ?
Oui, alors écoute, je me suis jamais dit, tiens, je vais monter ma marque Marin Montagu. J'ai un peu fait tout à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé à dessiner, à illustrer à l'aquarelle. Et je me suis rendu compte que, en positionnant mon aquarelle sur un foulard, sur un tissu, sur différents matériaux, Et déjà, c'était une collaboration avec des artisans, avec des manufactures françaises ou européennes. Et quand je recevais le prototype, j'étais comme un gamin qui ouvrait un paquet le matin de Noël, tu vois, un paquet cadeau. Et je découvrais vraiment mon dessin qui prenait vie. Alors, c'est pour ça que je me définis comme illustrateur, tu vois, parce que ces dessins, je me suis rendu compte que vraiment, je pouvais leur donner vie sur différents supports. Et tous ces objets que je crée sont inspirés aussi des objets que je chine, parce que ma grande passion aussi, c'est de chiner tous les week-ends. Et du coup, je crée les objets qui manquent à mon quotidien, mais à travers aussi ces objets du passé. Et donc, aujourd'hui, pouvoir voir mes dessins autant sur un foulard en soie que sur un coussin, que sur de la porcelaine ou sur du verre, c'est donner vie à mes dessins, en fait. C'est vraiment c'est faire bouger mes dessins sur différents supports.
Comment tu fonctionnes justement pour ces nouveautés? Tu te fixes des collections ou c'est au gré de tes envies comme ça?
Alors, pas du tout. Je marche pas du tout en collection parce que j'ai pas envie de m'imposer ça. J'ai pas envie de me dire, tiens, là on est au printemps, le printemps arrive, il faut que je fasse une collection. J'ai envie de rester libre, c'est très important. Et de me dire, tiens, j'ai envie de faire une collection sur les jardins, une collection sur les cartes, une collection sur le cosmos. Parce que j'ai visité un musée qui m'a inspiré ça, parce que j'ai chiné des gravures anciennes sur une brocante. Voilà, j'ai envie vraiment de continuer à créer par rapport à mon quotidien et par rapport à ce qui m'inspire et le monde qui m'entoure.
Et on est toujours un peu dans l'objet rare, entre guillemets, ce sont des pièces uniques, tout ce qui est autour de la table, la verrerie, les assiettes, les tasses. Où est-ce que tu fabriques, où est-ce que c'est fait?
Alors, j'ai mon atelier à Montmartre avec mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul à créer tout ça. Donc à Montmartre, on fait tout ce qui est peinture à la main. Il y a une partie de la porcelaine qui est peinte à la main. Les verres aussi également sont peints à la main. Tout ce qui est livre à secret, vitrine à merveille, tout ça c'est numéroté, peint à la main, découpé à la main. Et ensuite, tout ce qui est porcelaine, nous avons une manufacture au Portugal, un pays que j'aime énormément et où je vais tous les étés. Et donc c'est une manufacture familiale où ils font à l'ancienne, encore à l'ancienne, avec des moules en plâtre et tout ça. Et c'est moi qui crée les moules par rapport à des objets anciens que j'ai chinés.
D'accord. Oui, parce qu'il y a beaucoup, donc tu le disais tout à l'heure, tu vends aussi des objets chinés. Alors là, pareil, d'où ça devient cette passion de la Chine, de la brocante? Qu'est-ce qui t'a sensibilisé à tout ça? Ce sont tes parents?
Oui, donc ma mère, ma grand-mère, mon père et tout ça sont antiquaires. Et du coup, il y a eu, je pense, cette petite période d'adolescent, tu sais, où tu rejettes un peu ça, parce que c'est normal, t'es adolescent.
Tu rejettes tout,
tu de rejettes toute façon. Tout, voilà. Et après, en fait, c'est revenu très vite, à 20 ans. Je suis arrivé donc à Paris, et le week-end, j'allais faire des vide-greniers, des brocantes. Et en fait, ça m'anime, c'est... Quand je voyage, j'arrive à Lisbonne, le premier truc que je fais, je regarde la première brocante, le marché aux puces qu'il y a pour aller chercher des trésors. C'est un peu cette quête, cette chasse au trésor, mais c'est pas le trésor luxueux ou c'est un objet qui a pas forcément une valeur, mais moi, à mes yeux, c'est un objet qui va me bouleverser, que je vois par terre comme ça, comme un globe, comme une palette de peintre, et que je vais avoir envie de rapporter chez moi dans ma collection, ou qui va me donner envie de créer un nouvel objet pour raconter une nouvelle histoire. Et c'est aussi cette passation de se dire, tiens, cet objet était là, il a vécu d'une manière différente, et aujourd'hui, je vais lui donner un autre sens. Et en le mettant en scène dans ma boutique comme ça, cette passation de le léguer à quelqu'un d'autre et qu'il prenne un sens différent.
Et c'est aussi tout ton univers que de mélanger de l'objet chiné et de l'objet nouveau.
Oui, j'aime ça, pouvoir rentrer ici et se dire, tiens, est-ce que ça c'est d'aujourd'hui ou est-ce que ça c'est d'hier?
On n'ose pas forcément faire ça. Comment tu y arrives, toi?
Parce que moi, c'est comme ça chez moi, c'est comme ça à la maison. Et comme je te le disais, moi, j'aime créer les objets qui manquent à mon quotidien. Et du coup, je me dis, tiens, cet objet, j'ai vraiment envie de l'avoir, j'ai vraiment envie de le créer parce que je l'ai pas, il existe pas et j'ai envie de voir ce que ça donne. Et du coup, je me dis pas, tiens, je vais créer ça par rapport à une tendance. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne, mais c'est vraiment moi par rapport à ce que j'ai envie de voir dans mon vaisselier, ce que j'ai envie de voir chez moi. Et je me dis, bah tiens, je vais m'amuser à le créer. Et c'est comme ça que je donne vie à mes objets.
Qu'est-ce que tu penses des tendances, justement, t'en parler là ?
Écoute, pour être franc avec toi, je n'achète pas de magazine de déco. Je m'inspire. Les tendances, je ne suis pas très tendance, je pense. parce que comme je te le dis, je m'inspire vraiment des objets d'hier. Mais par rapport aux coloris, par rapport à... Je pense pas trop suivre la tendance, mais...
Tu t'en as franchi. Et alors, attends, question un peu bizarre, mais au-delà de ça, tu l'es, en fait, toi, quand même, aujourd'hui.
Ouais.
À ces tendances, ta boutique, elle est très actuelle. Elle fait l'actu déco, justement. Ouais. Toi-même, tu as une personnalité qui compte du monde de la déco.
Oui, bah écoute, je suis très instinctif, tu sais. Je suis mon instinct. Et par exemple, j'ai une passion pour le vert. Comme tu peux le voir, la boutique est entièrement
verte. La couleur,
verte.
Oui, vert.
Et du coup, j'ai utilisé différents camaïeux de vert. Voilà, c'est ce qu'on
peut... Qu'est-ce que ça t'apporte, le vert ? Qu'est-ce qui te plaît dans cette couleur ?
Alors, le vert, ça a commencé en Normandie, où j'ai fait mon atelier tout vert. C'est vraiment une pièce avec une verrière comme ça, qui est dans le jardin. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une bulle verte dans ce jardin vert. Et on m'a dit, mais t'es fou, une pièce quand même toute verte, ça peut être un peu oppressant. Et je l'ai quand même fait, j'ai peint tout en vert. Et là, je me suis rendu compte que mes objets prenaient vie différemment et que la lumière tout au long de la journée était différente et que ça captait la lumière vraiment. Et que quand je mettais mes objets dessus, si tu veux, un objet ancien, ça donne quelque chose de plus contemporain et il va ressortir différemment sur le vert. Ça lui donne une vie nouvelle.
Pour tes illustrations, qui est-ce qui t'a appris ça, le dessin, les aquarelles ?
Écoute, c'est très étonnant, mais je dessine vraiment depuis que je suis tout petit. Je dessine beaucoup. J'ai jamais pris de cours. Ma grand-mère m'apprenait quand j'étais petit. Je dessinais avec ma grand-mère, qui est artiste peintre. Du coup, je l'ai toujours vue. Le passage à la Saint-Martin School, j'ai dessiné un petit peu. Et puis après, il y a plusieurs années où j'ai arrêté. Et ça a été comme une évidence de peindre les objets, en fait. Tu sais, j'ai commencé par peindre beaucoup d'objets. Les objets de ma collection, les objets qui m'entouraient, les objets que je chinais, les objets que je créais. Et du coup, voilà, il y a une sorte de fluidité avec l'aquarelle où tu peux peindre en douceur et tu peux vraiment y aller petit à petit, en rajoutant un petit peu d'eau, en diluant. Et voilà, et j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé aussi dans mes voyages, quand on me demande pourquoi l'aquarelle, parce que c'est vrai que je suis très puriste à l'aquarelle, c'est parce qu'en fait c'était le plus pratique en voyage, et je prenais ma petite palette d'aquarelle portable, et avec un pinceau, et en fait, n'importe où tu es, tu trouves un peu d'eau, un petit gobelet d'eau, et du coup je pouvais peindre à n'importe quel endroit.
Et c'est un travail où, même pour toi, tu continues à peindre facilement comme ça ?
J'aimerais trouver le temps. J'aimerais trouver le temps de pouvoir peindre comme ça. Mais tu vois, là, avec tous les confinements qu'il y a eu précédemment, j'en ai profité pour rester enfermé dans mon atelier. Et j'ai peint. Et du coup, ça a donné vie à des nouvelles collections qu'on retrouve ici, rue Madame. Ouais, c'est mon bonheur. Bah, c'est mon bonheur de me dire, oh, là, j'ai une semaine où je peux aller m'enfermer dans mon atelier en Normandie, peindre...
Sans pression, ce qui devient...
Sans pression, tu vois, et voilà. Et c'est ça que je veux garder aussi, c'est important.
Parce qu'il faut quand même que tu t'adaptes que tu le disais tout à l'heure, au support à chaque fois.
Oui, alors...
Est-ce qu'on peint de la même façon avec les aquarelles
Non, on peint différemment sur les verres, de toute façon, sur tout ce qui est verrerie et porcelaine, c'est une peinture spéciale qu'on passe au four et qui est cuite à haute température. Et après, si tu veux, tout ce qui est sur foulard, tu retravailles les couleurs pour avoir le bon rendu en fait, de ton dessin. Donc finalement, mes dessins, je peux vraiment les adapter sur tout. Si tu veux, ça me donne vraiment l'impression d'avoir une cour de récréation géante et de me dire, mais je peux m'amuser à l'infini parce que ma liberté, c'est la peinture. Je peux aller vraiment sur plein d'objets. Ouais, c'est ça qui me fait garder cette âme d'enfant.
Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu dessines ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? C'est les trouvailles que je fais, des objets que je chine, des gravures anciennes, des musées que je parcours. C'est tout ça. Paris, bien évidemment.
Tu te fixes des objectifs ou tu te mets devant une feuille blanche et tu vois ce qui vient ? Comment tu travailles ?
Non, je me mets pas devant une feuille blanche parce que je pense que ça m'angoisserait, tu sais, le blanc m'angoisse un peu. Par exemple, mon atelier est tout sauf blanc, comme je le disais. Et là, je viens de faire un nouvel atelier dans le nouvel appartement là où j'ai déménagé à Paris. Et du coup, c'était drôle parce qu'il était blanc quand je suis arrivé, bien évidemment. Et vraiment, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à m'installer. Et donc, j'ai mis un papier peint, j'ai mis de la couleur, j'ai mis tous mes objets sur tous les murs. Et donc là, ça déborde de couleurs et d'objets. Et je me suis dit, OK, là, je peux m'asseoir sur mon bureau et je peux commencer à peindre. Et en fait, j'ai vraiment besoin d'être entouré de mes objets pour sentir ce réconfort et cette espèce de refuge et de me dire... Waouh, j'ai tous ces objets qui sont là pour m'inspirer et pour créer, quoi.
Ça fait plusieurs fois que tu parles de chez toi. À quoi ça ressemble chez toi, à Paris ?
Alors, c'est nouveau. J'ai déménagé il y a moins d'un an. Écoute, moi, j'avais un appartement avant où j'étais sous les toits de Paris, au 7e étage. Et du coup, là, on a déménagé dans une sorte de petite maison dans le 12e arrondissement, à côté de Federbe-Chaligny. Donc, je te disais, ce quartier qui est plein d'artisans et tout ça. Et du coup, c'est dans une petite cour, un petit passage privé. Et c'est comme un ancien atelier.
Comment tu l'as décoré ? Comment tu l'as
pensé ?
Je
l'ai décoré ? Écoute, on l'a décoré parce qu'il y a de la vigne dehors, donc ça fait très campagne comme ça. Et en fait, on l'a décoré un petit peu comme une maison anglaise. Et c'était tout blanc. Et donc là, on y est allé à fond sur les papiers peints et peintures. Tous mes choix étaient chez Farouane Ball. Il y a du vert, il y a une entrée qui est ocre comme ça, pour la même couleur que les tomates, parce que j'aime beaucoup les tomates. Et si tu veux, c'est une sorte de refuge comme ça, coloré, avec du papier peint à rayures, mélangé avec mes kilim. C'est très coloré, c'est très joyeux, enfin pour moi, hein, personnellement. Et quand je rentre là, si tu veux, j'ai besoin que ça soit comme un refuge, avec tous mes objets qui m'entourent.
Comment tu définirais ton style déco ?
Alors ça, écoute, t'es pas la première à me poser la question, mais...
Je plaisante. Je me doute.
Mon style déco, c'est coloré, c'est de la couleur, c'est joyeux, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être entouré de toutes ces couleurs. Je m'arrête pas à un style, si tu veux. Je me dis pas, tiens, ça, c'est d'une époque différente, donc je vais pas pouvoir le mélanger, ou ça me plaît là, maintenant, sur l'instant, mais est-ce que ça va aller dans mon décor à la maison ou pas? C'est vraiment à l'instinct. Et au coup de cœur, du coup, j'achète et je le pose là et je me dis, ouais, finalement, ça va, c'est bien. Du coup, je me dis pas, tiens, je vais rester dans un style, je vais rester... non, je mélange beaucoup. Je pense que, ouais, je mélange beaucoup les époques et...
Et les styles.
Et les styles,
et ouais. Ta maison en Normandie ?
Ouais, bah ça aussi, en parlant de refuge, c'est un autre refuge où on va tous les week-ends. Et là, grand bonheur de campagne. Et c'est aussi un peu à l'anglaise comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, la décoration à l'anglaise, c'était quelque chose dont je me sentais assez proche, parce qu'il y a quelque chose de très accueillant, tu sais. Et c'est vrai que quand je vais chez quelqu'un, j'aime me sentir enveloppé par les matières, par les couleurs. Et quelque chose de très important aussi, la première chose que je fais quand j'arrive dans un nouvel appartement ou maison, c'est les éclairages. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et ça, c'est ma maman qui m'a appris ça. Donc, tout ce qui est lumière du plafond, j'enlève. Et je mets toujours plein de... genre une vingtaine de lumières indirectes, de plein de petites lampes. Et du coup, tu mets 10 minutes à tout allumer quand tu arrives. mais à part ça, voilà, c'est chaleureux. En fait, le côté chaleureux, c'est très important pour moi.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une petite touche féminine ? T'as pas peur de mettre des fleurs et t'as tout un thème autour de l'amour
j'assume,
aussi
J'assume 400%. Le côté féminin, c'est hyper important. C'est hyper important. Et voilà, et moi, ma maman m'a appris plein de choses que je répète et que je modifie aussi avec mon style. Et ouais, et des fleurs, ça fait du bien. Et j'adore faire des énormes bouquets dans la campagne. Les fleurs champêtres, c'est ma passion. Et les mettre dans un vase, les mélanger, mettre du rose. J'ai pas peur de mettre du rose et je trouve ça super, c'est joyeux, c'est bien. Il faut mettre du rose aux petits garçons aussi, ça fait du bien.
C'est vrai. C'est quoi une déco réussie pour toi ?
Déco réussie, c'est comme je te disais, c'est une déco qui t'accueille, c'est une déco dans laquelle tu te sens bien. C'est des beaux éclairages, c'est quelque chose de... c'est accueillant.
On en a parlé un tout petit peu, un livre avec Inès de la Fressange sur les toits de Paris. C'était 15 appartements typiquement parisiens. Alors, à quoi ressemble l'appartement idéal ?
Écoute, moi, c'est vrai que les toits de Paris, j'ai une passion pour les toits de Paris. Les cabanes sous les toits, j'aime beaucoup. Le parquet qui craque, c'est très important. Les tomettes, c'est aussi très important. D'ailleurs, ici, on est assis sur les tomettes. Et voilà, et tout ce qui a une âme, en fait, les anciens ateliers aussi, au rez-de-chaussée, avec des verrières, tout ça, c'est ce qui me plaît à Paris.
Est-ce que tu as des objets fétiches chez toi ?
Oui, j'en ai plein.
Je sens que t'en as plein, oui.
Oui, j'en ai beaucoup. Les globes, les maps mondes, ça depuis toujours, ça m'a fait rêver. Bah parce que ça dit plein de choses et autant là j'ai créé un globe avec tous les astres. Donc tu vois là, tu le tournes et ça laisse songeur et ça fait penser à plein de choses. Les palettes de peintres aussi, je collectionne les palettes de peintres anciennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les pots de pharmacie anciens dans lesquels je mets des pigments. Pour les colorer, les tapis qui liment, j'en ai plein à la maison, les boutis provençaux, j'en ai aussi partout, sur les canapés, sur les lits. Voilà, la liste peut être très très longue.
Il y a un côté cabinet de curiosité aussi dans ton univers un peu ?
Oui, cabinet de curiosité parce que finalement tu peux poser ton regard, tu peux t'asseoir devant et tu peux passer une heure à tout regarder et tu te racontes des histoires. Et voilà, et se raconter des histoires, c'est bien, c'est garder son âme d'enfant et c'est continuer de rêver. Et c'est un peu des tableaux animés, tu vois, c'est des tableaux en 3D. Et c'est ça que j'aime quand je crée mes murs à merveille, sur des murs vierges comme ça, c'est de faire des sortes de tableaux, ouais, des tableaux en 3D avec tous mes objets et toutes ces curiosités. Et du coup, tu peux laisser libre... à ton imagination de te raconter toutes ces histoires et de mêler des tableaux à des objets et des objets qui normalement devraient être sur une table, les mettre au mur et du coup ça raconte des histoires différentes.
Est-ce qu'il y a des objets dont tu rêves que tu n'as jamais trouvé en brocante ou que tu rêves de fabriquer, d'avoir...
Des objets, écoute, l'objet dont je rêvais c'était de faire mon globe, ma map monde. Du coup, ça a été réalisé l'année dernière. J'ai trouvé un artisan à Paris. Tout est fait à la main et tout ça. Et j'ai dessiné tous les astres. Et j'ai collaboré avec un cartographe. Donc, toutes les étoiles sont placées au bon endroit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je rêve de créer ? Du papier peint, bien évidemment. Parce que du papier peint, c'est habiller les murs. Et c'est habiller les murs avec tous mes dessins. Du coup, ça, c'est à l'infini. Et plein de choses.
Tu parlais de ton globe et t'as tout un thème autour du cosmos. Qu'est-ce qui te plaît dans ce thème ? C'est très tendance en plus, ça revient beaucoup ce côté-là, un peu astro, etc.
Ouais, astro. Écoute, si tu veux, ma grand-mère, quand j'étais petit, me tirait les cartes. Et c'est vrai que j'ai toujours été très proche un peu de ce monde ésotérique comme ça, et des jeux de cartes du 18e. Avec tous ces dessins et toutes ces images comme ça, ces gravures. Ouais, c'est encore des histoires, quoi. C'est encore des histoires de planètes, de jeux de cartes sur lesquels tu peux te laisser à rêver et à imaginer plein de choses.
Ouais. Tu parles de ta grand-mère. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent ?
Des personnalités qui m'inspirent,
qu'elles soient connues ou pas.
On va dire que oui, ma maman m'a toujours beaucoup inspiré parce que oui, elle m'a appris à rester libre dans ce que je voulais, dans ce que j'aimais. Après, tout ce qui est l'art naïf, l'art brut aussi m'inspire énormément. Par exemple, dans les œuvres du douanier Rousseau, tu as cette perspective réelle qui n'est pas respectée. Et du coup, c'est la perspective finalement que tu retrouves dans les dessins d'enfants. Et je pense que oui, quand je trouve des tableaux d'inconnus, tu vois, sur des brocantes, qui sont peints des petites maisons comme ça, avec un jardin, qui sont peints par un adulte, et qui finalement font penser à des dessins d'enfants, ça, c'est un truc qui me bouleverse et qui me touche. Bah parce que voilà, l'âme de l'enfance, quoi. Mmh.
Tu te vois où dans 10 ans ?
Dans 10 ans, dans 10 ans, Paris, toujours Paris, bien évidemment. Peut-être un peu plus campagne, mais pas loin de Paris, parce que je peux pas me détacher de Paris. Et voilà, et aussi à droite, à gauche, dans le monde.
Et faire
ça, c'est certain. Continuer à créer des objets. Ça c'est certain, ça je sais que je m'en lasse pas et c'est pour toujours ma passion et c'est pour toujours mon métier de chasser mes trésors et de créer des nouvelles merveilles et de créer des trésors. Ouais.
Ouais. Ben merci beaucoup Marin. Merci
Hortense. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.